Nous avons donc essayé de comprendre comment l'inspiration puisse s'enraciner dans l'intelligence liée à l'imagination. L'imagination créatrice de Bergson. Comment l'intelligence liée à l'imaginaire peut, c'est pas n'importe quelle imagination, c'est là où il reste quand même toujours un problème mystérieux. Comment se fait-il que certains ont des inspirations et que d'autres n'en ont pas? Ça, on dira la matière grise, hein. Mais ça reste un très gros problème, ça. Un problème devant lequel on ne peut pas donner de solution. Nous avons tous la même âme, nous avons tous un corps semblable, biologiquement, c'est à peu près semblable, mais il y a cette chose très curieuse. L'intelligence se développe très différemment. Et c'est l'intelligence, c'est lié tout de suite à l'imaginaire. C'est le lien de l'intelligence et de l'imagination. En critique, donc dès qu'on est en philosophie critique, un des gros problèmes, c'est de voir comment l'intelligence dépasse l'image, parce que jusque-là, on touche quelque chose qu'on peut indiquer, nos sensations, et puis l'imagination, c'est quelque chose de très particulier, mais c'est quelque chose que nous portons en nous dans le domaine de la représentation. On se représente des choses. Et on peut essayer d'expliquer comment l'intelligence passe de l'imaginaire, c'est-à-dire de la représentation, au domaine de la signification. Toujours bien graduer ces différents moments de la connaissance. Le point de vue de la sensation. Dans la sensation, je dirais ni représentation, ni sensation. C'est un toucher, c'est une odeur. On sent, on voit. Mais ça n'a pas de signification. La représentation, c'est le domaine de l'image. Et le domaine de la signification, c'est le domaine de l'intelligence. Donc vous avez une connaissance sans signification, c'est très important. Vous avez une connaissance avec représentation ou dans une représentation, et vous avez une connaissance qui implique une signification. Il ne faut pas dire, il ne faut pas ramener toute la connaissance à la signification. Ce serait terrible. C'est la tendance qui peut arriver dans le rationalisme, c'est ce qu'on fait. On ramène tout à la signification, non? Et la signification n'exprime du reste pas, comme nous le verrons en philosophie, hein. En philosophie première, la signification n'exprime pas tout le problème de la pensée. Ce que nous avons vu, nous avons posé le problème d'un au-delà de la signification. Le verbe, c'est un au-delà de la signification. Pierre. Et puis Pierre existe. C'est la même signification. Sans Thalère, qu'ils soient l'idée du Thalère ou qu'ils existent, c'est la même signification. L'exister comme tel est au-delà du problème de la signification. C'est pour ça que dans la philosophie analytique, ceci est et ceci, c'est la même chose. Alors on peut barrer et. C'est parce qu'on ramène tout, vous voyez, au problème de la signification. Alors qu'il y a autre chose, si je constate tout de suite sans a priori, si je ne veux pas avoir d'a priori, je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a autre chose que le problème de la signification. Et tout ce qui est exprimé par le verbe être spécialement. Et puis, je peux tout de suite revenir à l'origine de ma connaissance. L'origine de ma connaissance, c'est la sensation. Et la sensation n'est pas un problème de signification. Et le domaine de l'imagination n'est pas un problème de signification. Donc, il y a un problème de signification qui est central, qui est très très important, c'est le problème de l'appréhension. Quand j'appréhende, je saisis quelque chose, et ce que je saisis a une signification. Alors, c'est aussi très important, dans le problème de la signification, de comprendre que la signification, elle est bien fondée dans la réalité, mais elle ne s'explicite que par ma connaissance. C'est en ce sens-là qu'on pourra dire, il faut bien comprendre, c'est l'intelligence qui donne au monde sa signification. S'il n'y avait pas un homme, le monde n'aurait pas de signification. Le monde en lui-même n'a pas de signification. Vous voyez, la part de vérité, la part d'erreur qu'il y a là-dedans. C'est vrai, c'est pas vrai. Est-ce que le chat qui se promène, est-ce qu'il a une signification ? Si je ne le voyais pas, et si aucun homme ne le voyait, est-ce qu'il a une signification? Est-ce qu'il a une signification qu'au moment même où l'intelligence connaît? Ah oui, c'est un très très gros problème, et très très important, c'est le problème qui revient tout le temps au cours de l'histoire de la pensée. Parce qu'on est au cœur, si vous voulez, du problème de l'intelligence dans sa coopération avec l'univers. Donc, voyez bien, dans une démarche critique, je vois sensation, représentation, signification. Et tout problème, c'est le problème du dépassement d'image pour arriver au concept. Et je dis, l'image implique une représentation, toute image représente, mais l'image en elle-même n'a pas de signification. En dehors de l'intelligence, comprenez bien. Et le concept, lui, c'est le problème de la signification. Et c'est vrai que le problème de la signification est lié au concept. Donc, est lié à la connaissance. La signification a bien un fondement dans la réalité, mais la réalité en elle-même, elle n'est pas signification. C'est la connaissance. Dans la mesure où je connais la réalité, que je peux la nommer. Et nommer, c'est justement donner une signification. Je donne une signification, je nomme. Et le langage porte cette signification. Alors, cette signification n'est pas uniquement d'intelligence, donc ce n'est pas l'intelligence qui donne au monde sa signification, c'est l'intelligence qui dévoile la signification du monde. Alors là, c'est vrai. C'est l'intelligence qui formalise la signification du monde. Mais le monde possède en lui-même et fondamentalement sa signification. En ce sens qu'un chat n'est pas un chien, même si je ne le nomme pas. Ce n'est pas parce que je nomme chien et que je nomme chat que je donne au chien et au chat leur signification. C'est très très important ce problème. On touche là quelque chose de capital. Nous montons vers le problème de la signification. Le problème de la signification implique quelque chose d'universel. Quand il s'agit de la connaissance artistique, donc de la connaissance qui, profondément, est quelque chose de très fondamental, je crois qu'avant la connaissance artistique, il y a une connaissance affective. Selon l'ordre génétique, il y a une connaissance affective. Elle est première génétiquement. Je crois que tout commence par un amour premier. Et à l'intérieur de cet amour premier, il y a l'intelligence qui découvre la présence. C'est pour ça que normalement, le premier mot de l'enfant, c'est maman, c'est papa, c'est à l'intérieur de l'amour.
à l'intérieur de l'amour, il y a donc, selon l'ordre génétique, hein, j'insiste beaucoup, il faut bien comprendre, c'est l'ordre génétique ça. Alors, selon l'ordre génétique, il y a une connaissance affective. Cette connaissance affective est née à l'intérieur d'un amour naturel, mais d'un amour spirituel. Parce que c'est l'amour de l'âme lié au corps, donc lié à une personne. La connaissance, donc, naît dans un lien personnel, grâce à l'amour, et à l'intérieur de l'amour. Alors, cette connaissance, vous comprenez, cette connaissance, on applique les grandes théories philosophiques, cette connaissance implique quelque chose d'universel, puisque quand l'enfant dit papa ou maman, ça n'est une éducation. Alors, est-ce qu'il y a un concept? À quel moment naît le concept? Bien difficile de savoir. Je crois que quand l'enfant dit papa et maman, il y a nécessairement une certaine connaissance. Évidemment, il répète, vous allez me dire. Et donc, c'est de l'ordre de la représentation. Il répète. Mais très vite, il répète à sa manière. Pas du tout, il ne répète pas tous de la même manière. Nous avons tous dit, selon un mode particulier, papa et maman. Vous ne vous en rappelez pas, vous ne savez rien. C'est forcément, il y a eu quelque chose de particulier, il y a eu un lien personnel. Et donc, il y a eu nécessairement un concept à l'intérieur de la connaissance affective. Il y a un concept, ça ne peut pas être autrement. Si j'analyse, il y a un concept. Un concept affectif, et ce concept affectif, nous disons que c'est un secret. Et c'est vrai, dès qu'il y a un lien personnel à l'intérieur de l'affectivité, il y a un secret. Très important pour la psychanalyse. Ce sont tous les nœuds. Les nœuds, ce n'est pas au niveau de la connaissance spéculative. Hein. Pas en danger. Parce que la connaissance spéculative, elle ne nous a pas tellement encombrés dans notre jeunesse, soit avant qu'on fasse des mathématiques. Parce que je crois que la connaissance spéculative est née quand on a commencé à faire des connaissances mathématiques. Alors, si on avait la bosse mathématique, on a eu des connaissances spéculatives assez vite. On a aimé les connaissances spéculatives. Celui qui n'avait pas la bosse mathématique refusait la connaissance spéculative et restait dans les secrets affectifs. Et tous les vous voyez, toutes les complexes, toute la complication de notre connaissance, elle naît des secrets. C'est la connaissance affective qui nous lie à une personne, et qui fait qu'entre cette personne et nous-mêmes, il y a un lien affectif qui est un nœud, qui est un nœud, alors qui est un secret. Alors quand c'est un secret positif, c'est très très bien. C'est quelque chose qui nous permet. Et quand c'est un secret négatif, c'est des ruptures. C'est des ruptures. C'est l'expérience du mal. C'est la première expérience du mal. La première fois, on a eu l'expérience du mal. Quelque chose qui, à la place de répondre à notre amour, a été l'inverse. A été un refus. A été une brisure. Alors à ce moment-là, on a eu l'expérience du mal. Et c'est encore un secret. Mais c'est un secret négatif. Et donc un secret négatif arrête. Et c'est ça le refoulement. Ce n'est pas la peine de chercher des choses très extraordinaires. On les explique tout simplement par ce fait que, en effet, les premières brisures affectives ont été nécessairement des arrêts. Ça, c'est sûr. Ça a été quelque chose qui nous a arrêtés. Alors, à partir de ce moment-là, il y a eu quelque chose de beaucoup plus complexe. Ça ne peut pas être autrement. La connaissance affective du mal qui amène quelque chose qui nous replie sur nous-mêmes, ce que l'élan premier ne peut plus se réaliser. Donc la connaissance affective à l'égard du mal nous a repliés sur nous-mêmes. Et nous repliant sur nous-mêmes a fait quelque chose de complexe. Alors que l'amour à l'égard d'une personne simplifie. C'est limpide l'amour. Par nature, c'est limpide. Tandis qu'au contraire, la souffrance n'est jamais limpide. N'est-ce pas ? Or, comme de fait, tout amour est lié à la souffrance, impossible autrement. C'est dans la lutte que se réalise un amour. Autrement, on sera en paradis terrestre, hein, où il n'y aurait pas eu de développement négatif. Il y aura toujours des éléments négatifs. Et donc, l'amour pourra devenir un poids, un morpum douce, hein, à cause de la souffrance. À cause de la souffrance et de l'amour. Et je ne peux pas avoir un amour pur. Le développement affectif, c'est toujours fait d'une façon positive et négative. Ça ne peut pas être autrement. Et à partir de cette connaissance affective est née la connaissance artistique. Très vite, le jeu. L'enfant, quand il joue, ce n'est pas la connaissance affective. Quand il est avec sa mère, la présence de sa mère, ça c'est la connaissance affective. Et le jeu est une distraction, forcément, par rapport à la connaissance affective. Et cette connaissance artistique, donc, elle est née par rapport à tout le milieu qu'on transforme. La connaissance affective, c'est par rapport aux personnes en premier lieu. Vous voyez ? C'est par rapport aux personnes, c'est pas le milieu. Je crois que le milieu est premier pour la connaissance artistique. Parce que c'est à l'intérieur d'un milieu que se détachent les outils, que se détachent les briques, que se détachent les pièces qu'on peut prendre et qu'on peut réaliser. Vous voyez ? Donc c'est à l'égard de ce milieu, la connaissance artistique est liée tout de suite à un milieu, tandis que la connaissance affective est liée à une personne, à des personnes. C'est le lien affectif des personnes qui sont amies et des personnes qui sont ennemies. Ça devient très vite, là. La personne ennemie, c'est la personne qui, tout simplement, arrache l'ami. Ce que dit, de façon juste, Freud, quand il dit que le père, quand il arrive, et qu'il voit la mère avec l'enfant, « Mais dépêche-toi, viens, viens !» Donc, le père, il est négatif. Il retire, il plonge l'enfant dans ses jeux, n'est-ce pas ? Dans son milieu. Il y a quelque chose de juste, là. C'est très juste que, là, quelquefois, la connaissance négative va se faire sentir de cette manière-là. Alors, vous dites que l'affectivité par le secret et dans le secret, c'est de l'ordre de la signification, c'est de l'ordre de la représentation, c'est de l'ordre de quoi ? Le propre de la connaissance affective, le propre du secret. La perle, comme dit Claudel, ça, c'est la perle. Et il dit qu'on ne peut arracher la perle qu'en tuant l'animal. Eh bien, quand on arrache un secret, on tue, on blesse. Et c'est vrai, ça, c'est très vrai. Quelquefois, il faut le faire, opération chirurgicale, arracher des secrets qui sont bons ou des secrets trop négatifs qui alourdissent. Et qu'ils ont un poids terrible. Alors, on comprend ça. Mais alors, le secret, est-il de l'ordre de la signification ? Est-il de l'ordre de la représentation ? Quel ordre est-il, le secret ? Il est dans l'ordre d'un lien. C'est pour vous montrer que notre pauvre langage, hein, il est terrible. Hein. Parce qu'on sait très bien ce que c'est qu'un secret. On le sait. Oui.
Est-ce que c'est pas l'analogue à l'inspiration du côté de la connaissance artistique ?
On va y arriver. À y arriver. Je fais l'analyse. Je fais l'analyse et je situe le secret avant. Parce qu'il est avant. Et je crois que génétiquement, il est avant. Le secret vient très vite. Dès qu'il y a amour, il y a le secret. Mon amour, c'est mon secret. Et mon secret, c'est mon amour. Il y a le secret de Polichinelle, vous savez. C'est autre chose. Mais en fond, hein, quand on vous dit, ne le dites pas, hein, ça c'est très net, c'est un secret. Bon, affectif, secret de Polichinelle, c'est sûr, mais c'est quand même un secret qu'on doit maintenir, qu'on doit garder jalousement, parce que c'est un secret. Un secret, qu'est-ce qu'il est en premier lieu ? C'est pas la signification. Je crois que c'est le lien avec la personne aimée. C'est le lien avec une personne. Parce qu'au fond, c'est la confiance. Si vous décevez quelqu'un en trahissant un secret, personne ne vous dit « je te dis ce secret parce que je sais que je peux avoir confiance ». Alors quand on est nombreux, je multiplie cette confiance pour chacun en particulier. Bon, alors cette confiance, la trahir un secret, c'est supprimer la confiance. Donc c'est relatif à la personne et relatif à l'amour qu'on a vis-à-vis de cette personne. Et trahir un secret, c'est de communiquer. Parce qu'un secret n'est pas communicable. Un secret n'est jamais universel. L'universel n'est pas un secret. C'est communicable. Il n'y a aucun secret dans l'universel. L'universel, c'est la connaissance spéculative. Du moins, c'est ce qui permettra la connaissance spéculative. Tandis que le secret est toujours singulier. Il est rattaché à une personne, il est toujours singulier. Et il n'est ni de l'ordre de la signification, ni de l'ordre de la représentation, ni de l'ordre de la sensation. C'est un amour qui devient lucide. C'est un amour qui devient limpide. Alors comme il y a l'intelligence dans cet amour, et c'est vrai, il y a intelligence dans l'amour, dans le secret. S'il y a intelligence, il y a signification ? Non. Il y a l'au-delà de la signification. C'est pour toujours, je voudrais que vous arriviez progressivement, parce que ce sera toute la métaphysique de l'acte qui est sous-jacente à ça, arriver à comprendre que identifier intelligence et signification, c'est terrible. C'est ramener l'intelligence à quelque chose de très important, la signification. Mais il y a un halo qui va beaucoup plus loin, qui n'est pas de l'ordre de la signification. Alors cherchez, vous me direz, ça m'intéressera. Un secret, c'est pas tellement le contenu du secret qui est important. Vous avez dit le secret de Polichinelle. C'est pas ça le contenu, c'est le lien avec la personne. Et on sait très bien, la moindre chose avec telle personne fait un secret. Oui ?
Est-ce que la mémoire n'a pas un rôle très important ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Est-ce que la mémoire n'a pas un rôle très important ?
La mémoire, c'est au-delà de la mémoire. Alors, ou bien la mémoire que vous prenez chez comme Saint-Augustin. Si vous pensez à la mémoire de Saint-Augustin, vous pourrez le dire. Que d'une certaine manière, c'est la mémoire. Mais si vous prenez la mémoire, ce qu'on appelle habituellement notre mémoire, non ?
La mémoire affective.
La mémoire, oui, mais la mémoire affective. Hein, la mémoire affective n'est plus entièrement la mémoire. Dans la mémoire habituelle, c'est la représentation, c'est l'image. Et c'est les connexions des images qui vous font rappeler les choses. Hein. Tandis que là, je ne suis pas dans l'ordre de la représentation. L'amour n'est pas de l'ordre de la représentation. On n'aime pas une image. On est au-delà de l'image quand on aime. Et alors c'est ça qui est très très difficile, que dans le secret, c'est un amour qui devient limpide. Un secret, c'est ce lien avec telle personne. C'est ce lien avec telle personne. C'est d'un ordre très très difficile à préciser. Oui.
Est-ce qu'on ne va pas, si on va revenir aux diverses dimensions qu'on avait données sur l'amour, il n'y a pas très longtemps ? Les 10 dimensions, les 12 dimensions.
Oui, mais ça c'est des propriétés. Faites attention, c'est tout à fait différent ici. C'était les propriétés de l'amour. Ici, c'est pas ça que je cherche. Vous voyez, je cherche. Non. Ici, je cherche le lien entre l'intelligence et l'amour. Et comment l'amour peut spécifier l'intelligence. Dans la connaissance affective, hein, c'est l'amour qui spécifie l'intelligence. Mon intelligence n'est pas tellement spécifiée par telle ou telle chose, mon intelligence est spécifiée, déterminée par l'amour. Et alors, c'est l'amour en lui-même, hein, a-t-il une signification ? Puis-je ramener l'amour à une signification ? Non, l'amour est au-delà de la forme, au-delà de la détermination. Or, c'est l'amour qui détermine ma connaissance affective. Alors si c'est l'amour qui détermine ma connaissance affective, j'essaie de comprendre, parce que c'est difficile, et c'est important quand même, parce que c'est toute la philosophie du secret. J'essaie de comprendre la signification du secret, pour voir l'au-delà de la signification du secret. Parce qu'ordinairement, je dirais, le secret, oui, la signification. Mais quand vous donnez la signification du secret, qu'est-ce que vous regardez? Vous ne regardez plus le secret, vous regardez le contenu du secret. Alors vous dites signification du secret. Voilà la signification. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Parce que ça, c'est secondaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que c'est qu'une connaissance affective qui engendre un secret. Ou une connaissance affective qui est secrète. C'est l'amour, c'est l'intelligence qui, à l'intérieur de l'amour, engendrait un nouveau type de connaissance, un type de connaissance tout à fait particulier, tout à fait sui generis, qui est secret. Alors, je me pose la question, vous voyez, j'ai vu cela habituellement, la sensation, l'image, la signification, tout ça, c'est très net, très facile. Je ne peux pas ramener l'amour à la signification, autre chose. Je ne peux pas ramener le secret à la signification, il y a un autre domaine. C'est cette intelligence qui touche l'amour de l'ami. Et c'est bien l'amour de l'ami, ce n'est pas un amour abstrait. Toutes connaissent tout secret et singulier. Et c'est l'amour de l'ami, c'est-à-dire de tel ami, de mon ami. Et c'est ça le secret. Et alors le secret à ce moment-là me fait découvrir l'intensité de mon amour. C'est à travers le secret que je définis, que je découvre l'intensité de l'amour. Oui. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement, le point de vue du secret? Je le note simplement, il faut y réfléchir. Ça fait une réflexion profonde au point de vue philosophique qui est très intéressante et qui, je crois profondément, vous voyez, c'est par là qu'on verrait l'erreur de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est la chasse des secrets. Mais la psychanalyse étant dialectique, ne peut pas saisir ce que c'est qu'un secret, parce qu'elle ne saisit plus ce que c'est que l'amour. Donc elle ne peut pas saisir ce que c'est que l'amour. Elle ne peut pas saisir ce que c'est que le secret. Or, je crois que c'est la question des secrets vrais et des faux secrets qui font la limpidité d'une conscience profonde. Hein. Ou au contraire, le poids d'une conscience qui est alourdie par un tas de choses qui ont été des choses qu'on n'a pas pu dire, on n'a pas pu exprimer, des choses qui ont alourdi et qu'on a oublié au bout d'un certain temps. Elles nous alourdissent. Et alors, à l'occasion de tel ou tel problème, tel ou tel problème analogue, je dis bien analogue, tout ça renaît, alors que c'était alourdi. Et alors ça devient un poids très grand. C'est ça qui est très curieux, vous voyez, et là l'analogie joue. Parce qu'une situation peut réactuer une autre situation. Une situation qui est perdue, qui a été très très perdue dans le temps, une situation de qui a été négative et qui m'a encombré négativement, et un scrupule par exemple, le scrupule ça arrive très facilement ça, alors le scrupule est affectif, le scrupule n'est pas intellectuel, c'est affectif, et c'est affectif, le scrupule c'est dans le religieux, mais il peut y avoir aussi un scrupule à l'intérieur d'une personne qu'on aime profondément et qu'on n'a pas été exactement ce qu'on aurait dû être. On a eu une attitude qui était fausse, qui n'était pas vraie. Alors il y a un scrupule qui peut l'être affectivement, mais qui fait qu'on s'est fermé. On s'est fermé. Et parce qu'on s'est fermé complètement, c'est un poids. Et là, on l'a oublié. Parce que la vie est faite comme ça. On l'a oublié. On a fait autre chose. Puis à l'égard d'une nouvelle situation analogue, tout ça renaît. Alors subitement, il y a comme une espèce de trappe qui s'ouvre, et puis on est relié à tout ça, qui était complètement perdu. C'est très très mystérieux ça. Vous voyez, l'exemple très très net de Jésus face à la Samaritaine. Pour moi, c'est très très net. Et là, on peut dire que c'est subitement cette femme se trouve en face d'une situation qu'elle n'avait pas résolue, qui était son secret. Elle ne pouvait pas en parler. Et qui faisait en elle un poids affectif. Ce poids affectif, doit-on adorer à Jérusalem ou au temple, ou doit-on adorer sur les hauts lieux? Et c'est vrai, si on sait que l'attitude affective religieuse est ce qu'il y a de plus profond, après, ou peut-être avant, mais après l'amour de l'enfant pour sa mère et pour son père, c'est tout de suite l'attitude religieuse. Et cette attitude religieuse est beaucoup plus profonde que l'attitude de l'enfant relié au père et à la mère. Et donc, si dans ce domaine-là, il y a une hésitation, un doute, qui va faire renaître un reproche, moi, j'adore dans les hauts lieux, alors j'ai entendu que c'était à Jérusalem, et je ne peux pas l'aimer. Parce qu'au fond, tout le cadre social m'empêche. Alors, je résous le problème, c'est comme tout le monde.